Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Un podcast France Culture.
Ce sont des crânes, des cornes, des écailles ou des mâchoires qui se vendent à prix d'or. Le trafic d'espèces protégées est souvent présenté comme le plus lucratif au monde après la drogue et les armes. Il est surtout le moins risqué, car si les douanes françaises saisissent chaque année des dizaines de milliers de spécimens, à commencer par des oiseaux et des alevins d'anguilles, les condamnations sont rares et les peines assez légères. Un demi-siècle après l'adoption d'un accord international visant à protéger ces espèces menacées, comment mieux lutter contre cette économie illégale. Pour en parler dans ce deuxième épisode de notre série sur l'économie animale, nous avons invité Charlotte Nittard, présidente de l'association Robin des Bois, co-autrice d'un atlas du business des espèces menacées chez Artaud en 2019. Également avec nous, Mégane Nathalie, docteur en droit international, autrice d'une thèse sur le droit international face au trafic de biodiversité sauvage, publiée en 2023 chez L'Harmattan. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milio, Tina Young, Laurence Genepin et Léopold Thiévan. Bonjour Charlotte Nittard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors d'abord, comment définir une espèce menacée ?
Une espèce menacée, c'est une espèce qui risque de s'éteindre de la surface de la Terre parce que ses populations, le nombre d'individus sont trop faibles pour que cette espèce puisse se reproduire et se développer normalement. Donc il y a plusieurs catégories. Vous avez alors les catégories par catégorie, j'entends des listes faites notamment par l'IUCN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, avec des critères qui sont repris aussi par des conventions internationales qui sont la taille de la population, son déclin au cours des 10 dernières années ou des 3 dernières générations. Et puis, vous avez, ces critères sont aussi appliqués par exemple par la CITES. Donc, vous avez des espèces qui sont en danger critique d'extinction. C'est-à-dire, à court terme, ils risquent de ne plus du tout avoir suffisamment d'individus pour que l'espèce vive.
Lesquelles, par exemple ?
Bah, par exemple, vous avez des requins marteaux, vous avez aussi l'éléphant de forêt, c'est quelques exemples. Après, vous avez des espèces qui sont en danger d'extinction, mais pas critiques, on va dire. Alors, dans ces classifications, vous avez par exemple l'éléphant de savane, qui est une espèce séparée de l'éléphant de forêt. Et puis, vous avez des espèces dites vulnérables, où là aussi, si on ne fait rien, à moyen terme, elles risquent de s'éteindre.
Bonjour Mégane Nathalie.
Bonjour.
On a parlé de cette liste des espèces menacées. Qui dit espèces menacées dit espèces rares. Ce sont donc des espèces qui peuvent atteindre des prix parfois délirants.
Oui, tout à fait. Donc, on a par exemple des cornes de rhinocéros qui se vendent aujourd'hui plus cher que la cocaïne ou l'or, entre 50 000 et 70 000 euros le kilo. Donc, effectivement, on a des prix exorbitants qui viennent aujourd'hui malheureusement justifier le fait que le commerce illégal d'espèces sauvages est un trafic extrêmement rentable.
Et les peines encourues, elles, ne sont pas très élevées, même si c'est peu à peu en train de changer, Mégane Nathalie ?
Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est un peu le deuxième volet qui explique que ce trafic soit si rentable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un faible risque de répression. Dans de nombreuses régions du monde, les lois contre le trafic d'espèces sauvages ne sont pas forcément strictement appliquées. Les peines encourues peuvent être effectivement relativement faibles par rapport aux profits, surtout potentiels. Et c'est cela qui vient aujourd'hui créer un environnement favorable à la criminalité.
Alors un business très lucratif et en même temps peu risqué, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de filières qui se soient engouffrées dans la brèche, Charlotte Nittard.
C'est ça, c'est des filières multi-opportunistes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des trafiquants qui avant faisaient du trafic de drogue ou d'armes et puis qui voilà une aubaine finalement pour des peines 3 à 10 fois moins lourdes potentiellement, ils peuvent se faire autant d'argent. Et parfois ils sont multi-filières, c'est-à-dire qu'ils continuent à faire du trafic de drogue et en plus ils font du trafic d'espèces menacées.
Bonjour, est-ce que vous avez des écailles de pangolin ? Oui, oui, j'en ai, mais pas beaucoup.
Je voudrais en acheter 50 grammes.
Elles font un bon poids. C'est la bonne qualité. Ces petites écailles, elles vont t'aider à être plus fertile. Regarde, j'ai aussi des écailles qui viennent des griffes. Je te conseille de les prendre. C'est très bon pour l'allaitement.
Vous devriez les faire cuire dans du sable bien chaud, dans une poêle bien sèche. Avant de les consommer, il faut les réduire en poudre.
Là, vous avez 50 grammes, c'est 500 euros le kilo, donc ça vous fera 25 euros.
Voilà un reportage d'Envoyé spécial, l'émission de France 2, dans une ville du nord du Vietnam, à 300 km d'Hanoï. Le premier marché d'espèces menacées, c'est en effet l'Asie, en particulier l'Asie du Sud-Est, Charlotte Nittard.
C'est un gros marché, vous avez l'Asie du Sud-Est, vous avez la Chine, avec à la fois un marché qui vise la décoration, avec disons une vocation de ces objets de faire d'être des signes extérieurs de richesse, et puis aussi un gros marché pour tout ce qui est médecine dite traditionnelle, ou médecine traditionnelle tout court, voire superstition. C'est typiquement le cas du pangolin, qui, comme le dit le reportage, est supposé, les écailles sont supposées favoriser la lactation. C'est censé aussi donner de l'énergie. Il y a un gros marché aussi de toutes les espèces animales qui sont censées être aphrodisiaques. Et c'est vrai qu'en plus de ça, c'est des marchés, en particulier les marchés chinois, qui profitent, qui s'appuient aussi sur des expatriés chinois, notamment en Afrique, qui travaillent dans le cadre de grands travaux ferroviaires ou d'exploitation forestière.
Et ce que recherchent les clients chinois, ce n'est pas nécessairement la même chose que ce que recherchent les clients européens ou américains qui sont ainsi des consommateurs de ces espèces menacées, Megan Nathalie.
Oui, alors ça peut dépendre. Après, aujourd'hui, on constate qu'il y a une véritable influence qui est grandissante de la médecine traditionnelle chinoise de par le monde. Donc en réalité, ça peut effectivement concerner tout individu intéressé par ce type de médecine. Après, on a également des individus partout dans le monde qui souhaitent s'approprier des animaux de compagnie dits exotiques. Et effectivement, comme cela a déjà été souligné, des individus qui, par goût personnel, de décoration ou d'usage, souhaitent effectivement obtenir des espèces sauvages.
Oui, parmi les espèces exotiques, il y a le poisson de Bangaï en Indonésie, qui est très prisé, je crois, des consommateurs occidentaux, Megan Nathalie.
Oui, tout à fait. On a également un certain nombre de reptiles aujourd'hui qui font, malheureusement, qui sont effectivement mis en péril à cause de cette demande d'animaux de compagnie exotiques, que ce soit en Europe ou sur le marché des États-Unis actuellement.
On a évoqué le pangolin, qui est malheureusement souvent en tête des classements des espèces menacées les plus prisées par les consommateurs. Quelles sont les autres espèces qui sont très demandées, Charlotte Nittard?
Bah écoutez, vous avez toujours le martyr des éléphants, des rhinocéros aussi, qui ont vraiment pâti. Bon, alors les rhinocéros, la corne de rhinocéros, depuis les premières traces, c'est dans les années 1500, c'était déjà être censé être un remède contre tous les venins. Mais il y a eu une explosion de la demande qui a fait culminer les prix à 100 000 euros le kilo, ce qui est considérable. Des rumeurs comme quoi ça permettrait de guérir du cancer. Après, c'est difficile, c'est-à-dire que on voit, ça a été cité, vous avez ce petit poisson cardinal de Bangaï qui a vraiment une aire de répartition qui est minuscule et qui est très demandée dans l'aquariophilie à la fois aux États-Unis et en Europe. Donc c'est difficile de faire un classement. Mais on sait aussi que, par exemple, pour ce qui concerne l'Europe et la France, vous avez un trafic absolument considérable des civelles, donc c'est la levain de l'anguille, et des chardonnerets. Donc, suivant les continents, parce qu'aucun continent n'est épargné, sauf peut-être l'Antarctique, mais sinon, vraiment, c'est un fléau à l'échelle industrielle qui touche la Terre entière.
Et c'est un trafic qui prend de l'ampleur aujourd'hui, Charlotte Nita?
C'est Internet savonne la planche de l'extinction, c'est-à-dire que c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, qui même pendant les temps de confinement du Covid continue de battre son plein avec les livraisons à domicile, avec des moyens de contrôler ce marché qui sont absolument dérisoires comparés à son ampleur, parce qu'il faudrait, maintenant il y a un peu d'intelligence artificielle, mais enfin en attendant que ça soit vraiment au point, il faudrait des inspecteurs spécialisés dans cette cybercriminalité, et donc c'est absolument considérable et ça accélère le mouvement qui était déjà bien amorcé avec la mondialisation des échanges et les porte-conteneurs et la multiplication des lignes aériennes.
Et aux premières loges de la lutte contre ce trafic se trouvent bien sûr les douaniers.
J'ai vu des cornes de rhinocéros, des défenses d'éléphants, un serpent vivant et j'ai eu une fois une tortue qui était scotchée entre les seins d'une dame par exemple. Je finissais mon service et là j'avise ma collègue qui s'apprête à contrôler quelqu'un, donc je vais avec elle. Et puis voilà, on contrôle son bagage, donc c'était un sac de sport souple. Et là on entend un cri d'oiseau. On sort une petite cage, mais c'était même pas une cage, c'était comme une essoreuse à salade en fer. Et il y avait une pauvre bestiole à l'intérieur, noire. C'était un perroquet qui était vivant, mais voilà, il était vraiment hyper mal en point. Puis il avait une patte toute cassée. Les plumes coupées pour pas qu'ils s'envolent. Ils venaient donc de Madagascar en passant par le Kenya, les Pays-Bas et les Pays-Bas Paris. Et c'est quand même un miracle qu'il soit vivant. Il est amoché, mais il est vivant.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Nous parlons du trafic des espèces menacées avec Charlotte Nitard et Megan Nathalie. C'était le témoignage de Sarah, inspectrice des douanes à Roissy, dans un épisode des Pieds sur Terre diffusé sur France Culture le 18 janvier 2021. Alors les espèces sont plus ou moins traquées selon les modes. Le chardonneret élégant en est un bon exemple, Charlotte Nitard?
Oui, c'est un bon exemple d'une mode qui en fait s'accélère mais qui existe depuis aussi longtemps. Le problème, c'est que les chardonnerets, leur capture est interdite dans les pays du Maghreb depuis parfois une vingtaine d'années, mais ils continuent à être capturés de leur migration. Ils sont aussi maintenant capturés en Sicile, à Malte et en France et partout. C'est-à-dire que, y compris dans des parcs et jardins publics, les chardonnerets sont attrapés à la glu avec des filets, parce qu'après un chardonneret se vend à l'unité entre 150 et 500 euros suivant sa beauté, surtout suivant la beauté de son champ.
Alors qu'il valait 1 euro dans les années 90, donc ce n'est pas tellement la rareté, mais vraiment l'effet de mode qui a ainsi créé sa valeur?
Les deux, parce qu'en fait il y a un capitalisme de l'extinction qui veut que plus une espèce est rare, plus son prix augmente et plus certains individus en veulent, justement pour l'effet bling-bling. Donc c'est ça le problème, c'est qu'une espèce, moins il y en a, plus ça vaut cher, donc elle a tout contre elle, quoi.
Il y a d'ailleurs un réseau qui a été démantelé en région parisienne en octobre dernier, un réseau de trafiquants de chardonnerets élégants, et ces effets de mode que vous évoquez, Charlotte Nitard, sont entretenus par les filières qui lancent de vastes entreprises de désinformation?
Absolument, des vastes entreprises de désinformation sur, par exemple, les soi-disant propriétés curatives. Au moment du Covid, il a été lancé la rumeur que les écailles de pangolin, justement, permettaient de guérir ou de prévenir, ou bien aussi que les têtes de vautours en Afrique permettaient de guérir du Covid. Ça a été une véritable hécatombe pour les vautours. Donc il y a des effets comme ça de rumeurs, de promotion, y compris avec des sortes de pas d'attachés de presse, mais enfin de publicitaires. Quand vous avez un footballeur ou quelqu'un de connu qui s'affiche avec un tigre ou un serval ou un autre animal vivant, il va y avoir un effet de mode, ou avec des petits singes. Donc ça va lancer une mode et c'est très difficile après d'inverser la tendance.
Et en même temps, est-ce que l'opinion publique n'est pas de plus en plus défavorable à ce genre de trafic? On l'a vu lorsque Maître Gims, il y a un an, a publié cette vidéo justement de lui en train d'allaiter, de donner le biberon à un petit serval, je crois, Megan Nathalie.
Oui, tout à fait. Alors l'opinion publique aujourd'hui se mobilise, on est de plus en plus au courant, il y a beaucoup plus d'études, beaucoup plus de communication à ce sujet. Malheureusement, en termes concrets, ça ne suffit pas à freiner ce trafic illégal. Et malheureusement, il y a toujours aujourd'hui nombre de photos, de médias qui publient des images de personnalités ou même d'individus lambda avec des espèces sauvages qui sont aujourd'hui menacées et interdites au commerce.
Et alors comment ces marchandises circulent-elles? On a entendu le reportage des pieds sur terre. Il y a évidemment les marchandises de spécimens, notamment des têtes, des mains de primates, mais il y a aussi des marchandises d'animaux vivants. Comment permettre que les animaux arrivent à bon port, Charlotte Nittard?
Bah écoutez, quand l'animal est vivant, les premiers maillons du vecteur de transport, enfin les premiers vecteurs de transport, ça va être la voiture, le train, beaucoup en Inde, qui a un très bon réseau ferroviaire, voilà. Et puis sinon, après, pour l'expédition, ça va être principalement, quand c'est des animaux vivants, par voie aérienne, en bagages qu'on peut prendre en cabine. C'est notamment le cas des civelles, qui sont, elles, mises dans des petites valises avec des poches d'eau à l'intérieur et les animaux dedans. Après, pour les animaux morts, alors on a, pour les vivants, on a cité aussi le cas des reptiles et des oiseaux qui sont des fois scotchés à l'entrecuisse ou la tortue entre la poitrine, avec des fois des dispositifs absolument incroyables. Et puis pour les espèces mortes, alors bon, là ça va être tout. L'ivoire, par exemple, et la corne et les écailles sont beaucoup transportés par porte-conteneurs, dans des conteneurs qu'il est extrêmement difficile de contrôler, en tout cas pas les 200 millions de conteneurs qui transitent chaque année dans le monde, ça c'est sûr. Donc c'est là où il est important d'avoir des informations en amont pour faire des contrôles ciblés, sinon on est complètement débordé.
Mégane Nathalie, sur les routes des trafiquants?
Oui, alors sur les routes, rien de particulier malheureusement à rajouter. C'est un ensemble de réseaux de transport qui tout est utilisé en fait au final. Et tout à l'heure, on écoutait un témoignage de douaniers. Il faut effectivement mentionner que les douanes, compte tenu de l'ampleur de ce trafic et de tous les moyens qui sont utilisés pour faire transiter une espèce d'un point A à un point B, jouent un rôle véritablement crucial dans cette lutte contre le trafic illégal d'espèces sauvages. Ils opèrent les contrôles aux frontières, ils repèrent les signes de trafic tels que des documents falsifiés, les cachettes dont le témoignage parlait, qui sont par exemple des animaux dissimulés dans des bagages, dans des marchandises, des comportements qui peuvent être suspects. Et finalement, ils interceptent en conséquence les cargaisons suspectes, ils confisquent, ils saisissent les espèces trafiquées. Et ça permet aujourd'hui de contribuer à grandement perturber les réseaux de trafic, dissuader les contrebandiers et essayer de freiner l'utilisation de tel ou tel transport si celui-ci est effectivement bien contrôlé.
Ils ont d'abord arrêté tous les autres et les ont mis tous en cellule. Après, ils sont venus m'arrêter moi.
On a gardé les animaux dans une cage pendant 4 jours et on leur donnait du lait. Moi, j'ai l'habitude de faire des allers-retours en voiture jusqu'à la frontière. Comme on avait une demande pour des guépards, on a trouvé un fournisseur de l'autre côté pour nous en vendre. Je suis allé les chercher avec 2 jeunes cousins pour m'aider avec les animaux.
Les villageois nous ont dit que les trafiquants offraient des prix allant de 350 à 500 dollars chaque petit. C'est beaucoup d'argent, c'est un gros marché.
Voilà, on vient d'entendre plusieurs trafiquants, puis Abdinazir Saïd, qui est membre du ministère de l'Environnement du Somaliland, extrait d'un reportage de France 24 de 2021. Alors, quels sont les différents acteurs impliqués dans ce trafic illégal d'espèces menacées? Il existe un braconnage, qu'on peut appeler un braconnage d'opportunité, Mégane Nathalie?
Oui, tout à fait. Alors effectivement, ce trafic, c'est un phénomène global. Il fait intervenir un grand nombre d'acteurs. Donc finalement, et en général, à la racine, il y a bien souvent des individus issus de communautés locales pauvres qui sont contraints par la nécessité ou par la force, puisqu'il y a un certain nombre de groupes armés qui sont impliqués dans ce type d'opération. Donc ils sont contraints par la nécessité ou la force de s'engager dans ces opérations. Certaines de ces opérations, comme vous l'avez dit, peuvent être des opérations d'opportunité, c'est-à-dire qu'elles peuvent être faites de façon isolés par des individus qui n'appartiennent absolument à aucun groupe mais qui souhaitent tirer profit de ce type de braconnage. Outre cela, et en tout état de cause, dans la majorité des cas, donc ce sont des individus issus de communautés locales pauvres, et à la suite de ces opérations, les produits sont mis sur le marché par des négociants, d'ordinaire contactés par des intermédiaires dans le ou les pays de transit. et in fine dans le ou les pays consommateurs.
Et on voit par exemple le cas dans la région des Grands Lacs, en Afrique, où on a effectivement des communautés locales qui ont besoin de ce trafic d'espèces menacées pour survivre, Charlotte Nittard.
Alors il y en a qui ont besoin, mais faut pas confondre la chasse de subsistance avec le braconnage pour faire du trafic. Alors il y en a qui sont forcés par nécessité ou contraints, effectivement. Dans la région des Grands Lacs, c'est un bon exemple. Mais on voit quand même, et c'est ça qui est difficile et qui est un peu déprimant, que vous avez aussi des gens qui braconnent parce qu'ils veulent encore plus d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont un emploi qui est stable d'instituteur ou de policier ou même d'autorités, locales, élues, etc., mais qui braconnent en plus pour s'approprier le bien commun et se faire de l'argent. En Afrique du Sud, il y a des braconniers, ils vont sur les lieux en BMW. Donc il y a quand même de tout. C'est ça qui est difficile. Après, on le sait, effectivement, lors des crises économiques, ça on l'avait vu déjà avec la récession des années 30, ça entraîne une recrudescence du braconnage, mais pas que.
Donc il faut différencier ce braconnage d'opportunité et ce braconnage en bande organisée. Comment s'organise le second, Mégane, Nathalie ? Il faut peut-être dire un mot des réseaux qui aujourd'hui aussi passent par la corruption pour pouvoir s'acheter le silence des rangers qui sont supposés veiller sur les espèces d'un certain nombre de parcs.
Tout à fait. Alors l'organisation, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des individus issus de communautés, ensuite des intermédiaires, ensuite des négociants et ensuite le consommateur final. Après, effectivement, il y a des groupes armés qui sont impliqués dans ce type de trafic. Dans ces cas-là, ce sont souvent des mafias. On sait qu'aujourd'hui, des membres de triades chinoises ou de mafias russes sont impliqués dans tel ou tel commerce illégal. Donc effectivement, ce trafic illégal d'espèces sauvages, il a des conséquences qui sont écologiques, mais également des conséquences qui sont sécuritaires dans la mesure où cette implication de groupes armés et ou terroristes sont une véritable menace pour l'état de droit.
Charlotte Nittard.
Oui, effectivement, le braconnage alimente l'insécurité, alimente les guerres civiles. C'est d'ailleurs pour ça que l'ONU s'est intéressée et s'intéresse de très près à cet enjeu du braconnage d'espèces menacées depuis les années 2014 à peu près. Enfin, il y a eu une résolution signée en 2014 parce que ça alimente les groupes terroristes, les milices en tout genre. Et dans l'atlas des flux illicites qui a été publié par Interpol, ils estiment à peu près que les grands groupes criminels armés se financent à hauteur à peu près de 38% de leurs revenus grâce aux crimes environnementaux. Alors qu'ils comprennent aussi le trafic de déchets, c'est pas que le trafic d'espèces menacées animales, il y a aussi le végétal et puis les mines, etc. Mais pour dire que c'est vraiment pour eux une source de financement importante et on le sait depuis la guerre civile en Angola avec ce qu'on appelait à l'époque l'ivoire kaki et le fait que de vendre de l'ivoire, ça permet d'avoir de l'argent et donc d'acheter des armes.
Et donc en effet, le trafic d'espèces menacées alimente des groupes terroristes et il y a d'ailleurs des liens entre ce trafic et le trafic d'armes, Mégane Nathalie.
Oui, tout à fait. Alors, de toute façon, il y a un lien qui est évident entre ce trafic et un grand nombre de trafics. Donc, on a le trafic d'armes, on a également le trafic de drogue, qui a été un peu évoqué tout à l'heure. Il faut savoir aujourd'hui que le trafic illégal de biodiversité sauvage, il participe à l'exacerbation d'une violence propre à d'autres types de trafics, comme le trafic de drogue. Il peut servir de vecteur. Comme par exemple, on a vu l'utilisation de serpents qui étaient remplis de préservatifs contenant de la cocaïne.
Et alors, vous avez parlé de cet impact sur les populations locales du braconnage, évidemment en termes de violence. Il y a aussi un impact économique, Mégane Nathalie, puisque plus il y a de braconnage, plus la biodiversité est abîmée. Et tout cela a un impact sur le tourisme.
Oui, alors exactement. Alors, moi, si je voulais partir d'un prisme un peu plus large, déjà, il faut bien noter qu'il n'y a absolument aucun ruissellement économique du fait de ce trafic. Il est inexistant, du fait d'une part que les profits générés par cette activité criminelle restent concentrés entre les mains des trafiquants. Ils ne bénéficient absolument pas à l'économie légale ni à la société dans son ensemble. Au contraire, il s'agit d'une lourde perte pour les finances publiques des États, puisqu'ils ne sont non déclarés, donc ils échappent à leur fiscalité. Et effectivement, de surcroît, ils menacent le développement économique des États, et a fortiori, des États qui dépendent du tourisme, lié à l'existence d'une riche biodiversité en leur sein. Et finalement, pour donner quelques chiffres sur le sujet, il est aujourd'hui estimé que le braconnage d'éléphants, par exemple, y crée un manque à gagner de 25 millions de dollars par an, que la disparition d'un des Big Five de la savane africaine entraînerait une diminution du tourisme d'observation de près de 20%. Et si vous voulez, tout ça, en fait, c'est un peu illustré dans le commentaire d'une femme issue d'une communauté rurale sud-africaine qui avait été recueillie par un auteur il y a quelques années et qui est assez éloquent, c'est-à-dire qu'elle disait « Lorsque vous tuez un rhinocéros, vous nous tuez, nous ».
Pour bien comprendre comment fonctionne ce trafic d'espèces menacées, peut-être un mot sur la capture de ces animaux. Ce sont des captures parfois spectaculaires, puisqu'il peut s'agir de très grands mammifères, de mammifères sauvages, dangereux, Charlotte Nittard.
Oui, alors parfois les braconniers prennent des risques, effectivement. Maintenant, il y a de plus en plus d'armes automatiques qui sont utilisées pour les grands mammifères. Mais bon, reste que des fois, les éléphants sont attaqués à la lance ou à la flèche empoisonnée. Et puis, il y a une diversification, c'est-à-dire que maintenant, vous avez aussi de plus en plus d'empoisonnements, notamment avec des pesticides organochlorés qui sont normalement interdits d'usage. Les moyens sont vraiment très très vaste. Après, pour des petites espèces absolument pas agressives comme les tortues ou le pangolin, pour le braconnier, c'est extrêmement facile. Je voudrais juste, si vous me le permettez, revenir un instant sur les violences, parce qu'on n'a pas parlé des rangers qui perdent leur vie. Il y en a à peu près une centaine par an qui perdent leur vie dans l'exercice de leur fonction, tués par des braconniers. Vous avez aussi des défenseurs de la faune sauvage qui sont assassinés parce qu'ils font trop bien leur travail, et notamment des inspecteurs en Afrique du Sud ou en Tanzanie qui se font tuer à bout portant par les mafias. Et puis aussi, il y a en retombée économique négative, vous avez tout ce qui est service écosystémique rendu par ces espèces qui tout d'un coup sont anéantis. Par exemple, les grenouilles mangent beaucoup d'insectes ravageurs de cultures ou de moustiques qui sont vecteurs de maladies.
Oui, ça crée des conséquences en cascade. Et puis, il y a donc ces captures sauvages, si je puis dire, qui interviennent. Mais il y a aussi de plus en plus de vols dans des musées ou dans des zoos, Mégane Nathally.
Oui, tout à fait. Alors ça, ce sont typiquement des vols un peu d'opportunité. L'attrait lucratif conduit aujourd'hui les criminels jusqu'à opérer effectivement dans des musées, dans des zoos. Ça a été par exemple le cas en 2011. Il y a eu des vols de cornes de rhinocéros au musée d'histoire naturelle de Gothenburg en Suède. Et il y en a eu également au musée de la chasse et de la nature à Paris.
Oui, et puis il y a aussi ce rhinocéros près de Paris qui a été abattu de 3 balles en 2017 dans le zoo de Thoiry par un groupe de braconniers pour ses cornes. On voit bien que le caractère très lucratif de ces espèces rend les trafiquants toujours plus créatifs pour réussir à se les procurer, Charlotte Nittard.
Ouais, toujours de plus en plus créatifs, audacieux. Le cas du rhinocéros de Thoiry abattu 3 balles dans la tête est quand même assez exceptionnel, avec une corne découpée, l'autre qui commençait à être découpée mais qu'ils n'ont pas pu emporter. En France, il y a eu 11 vols dans des zoos et des muséums. Donc c'est, et à l'échelle européenne, il y en a eu, je crois, à peu près 70. Après, vous avez des Jardilandes qui sont attaqués à la voiture bélier pour aller voler un cacatoès à huppe blanche qui vaut 2-3 000 euros. Vous avez très souvent les espèces majoritairement ciblées dans les zoos et les animaleries, c'est les oiseaux, mais aussi les petits primates, les ouistiti, avec aussi parfois des cas exceptionnels comme la panthère noire du zoo de Maubeuge, qui après avait été retrouvé divagant sur les toits d'Armentières dans le Nord et qui a été revolé après et qui maintenant aurait atterri dans un abandonné devant un refuge aux Pays-Bas.
Alors pourquoi n'arrive-t-on pas à réduire ce trafic d'espèces menacées? Comment améliorer la lutte? On continue à en parler dans un instant. Charlotte Nittard et Mégane Nathally, restez avec nous. Tchoup, 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 tcho
L'avez-vous vu le documentaire sur les panthères noires en peluche? De tous les animaux sur Terre, c'est de loin le plus farfeluche. Elle passe la journée assoupie, allongée sur les couvre-lits, et la nuit elle vous saute au cou pour vous dévorer de bisous. Pas de chasseur, de braconnier, pas de barreau pour m'enfermer. L'état idéal pour un animal, jouer et dormir, voilà mon programme. Pas de fusil, de safari, pas peur de finir en rôti. Je suis une espèce d'espèce protégée par les câlins des enfants qui me brossent dans le sens du poil tout le temps. L'avez-vous vu le documentaire sur les panthères noires en peluche? Pour tous les savants de la terre, c'est une énigme de la nature.
La panthère noire en peluche de Louis Chédid sur France Culture. D'entendez-vous l'écho, espèce menacée, se tailler la part du lion, c'est notre sujet aujourd'hui. Mégane Nathalie et Charlotte Nittard sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch, réalisée par Félicie Faugère avec l'aide de Denis Forger et mise en onde par Marie-Claire Oumabadi.
Pas de chasseur, de braconnier, pas de barreau pour m'enfermer. L'état idéal pour un animal, jouer et dormir, voilà mon programme, pas de fusil.
Alors comment la lutte contre le trafic d'espèces protégées s'est-elle mise en place? C'est en 1973 qu'a été ratifiée la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Mégane Nathalie, vous qui êtes docteur en droit international, dans quel contexte cette convention est-elle apparue?
Oui, alors effectivement, il existait auparavant de la CITES des instruments juridiques multilatéraux qui étaient destinés à venir assurer une protection spécifique aux espèces animales et végétales sauvages menacées par leur utilisation. Mais si vous voulez, ces conventions, si elles ont contribué à construire la notion de protection au regard des espèces sauvages, elles ne venaient pas encadrer les pratiques commerciales auxquelles celles-ci étaient soumises. Donc finalement, c'est cette ampleur grandissante du commerce d'espèces qui a rapidement imposé la création d'une convention spécifique en la matière. Et c'est ainsi que la CITES a effectivement été adoptée à Washington le 3 mars 1973.
Et alors que prévoit la CITES?
Donc la CITES, c'est un accord international entre États qui a très clairement pour but de veiller à ce que le commerce des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. Donc très concrètement, la Convention, elle établit un cadre légal international et des procédures communes pour réglementer efficacement ce commerce. Et elle a mis en place 3 échelles de protection pour les espèces qui sont aujourd'hui considérées comme menacées par le commerce transnational. Donc on a l'annexe 1, qui est l'annexe la plus stricte de toutes finalement, car y figurent des spécimens hautement menacés dont les échanges internationaux à des fins commerciales sont interdits. On a ensuite l'annexe 2 qui comprend les espèces dont les transactions commerciales seraient susceptibles de menacer leur statut biologique. On a également dans cette annexe des spécimens qui sont dotés d'une ressemblance avec des espèces protégées au titre de la Convention. Mmh. Et enfin, on a l'annexe 3 qui, elle, correspond à une démarche qui est volontaire de la part des États parties qui souhaitent, eux, inscrire dans leur rang des espèces qu'ils protègent et dont ils jugent que la coopération entre États parties servirait mieux leurs objectifs.
Et donc c'est une convention qui regroupe 184 États parties, parmi lesquels les 2 premières économies mondiales, les États-Unis et la Chine. Que se passe-t-il, Mégane Nathalie, lorsqu'un des pays membres ne respecte pas ses engagements?
Donc, très clairement, lorsqu'un des pays membres ne respecte pas ses engagements, il peut y avoir des sanctions qui sont élaborées dans le cadre de la CITES. Ça va souvent donc par des, c'est établi en fait par des recommandations d'embargo à l'encontre de tel ou tel État parti. Alors après, ces recommandations peuvent ne pas être suivies par les États partis qui ne le souhaiteraient pas. C'est effectivement arrivé. Donc tout ça, si vous voulez, c'est quand même soumis à la libre interprétation des États. Car il faut bien noter que la CITES, c'est une convention sur le commerce. Et ce n'est pas une convention liée au crime.
Oui, on va voir un certain nombre de limites, évidemment, de cette convention. Mais peut-être, faut-il dire d'abord, Charlotte Nittard, qu'elle a tout de même de belles réussites à son actif?
Absolument. En tout cas, c'est une convention qui a le mérite d'exister. Et donc, depuis son entrée en vigueur en 1975, elle a, par exemple, permis de sauver les éléphants lors de leur inscription en annexe 1 en 1989. Et on a vu après que quand il y a eu des déclassements partiels de populations d'éléphants en Afrique australe, donc certaines populations ont été déclassées en annexe 2, on a vu une recrudescence du braconnage. Donc, elle a des franches réussites. Ce qu'il y a, c'est que c'est quand même un animal assez politique puisqu'il est question de commerce et entre le moment où biologiquement on se rend compte qu'une espèce est vraiment menacée par ce commerce international, c'est vraiment que le commerce international, donc entre le moment où on s'en rend compte et le moment où il y a une inscription, il peut se passer plusieurs années, voire plusieurs décennies. Ça a été le cas des requins très prisés pour leurs ailerons et il a fallu des années et des années pour qu'ils soient inscrits.
Et ben justement, je voudrais vous faire entendre un extrait d'un reportage de France 3 de 2010 dans lequel il est question de requins.
Des millions de ces requins sont tués pour leurs ailerons. Deux espèces en particulier. Ces ailerons sont utilisés pour faire des soupes. C'est vraiment un problème de commerce international qui aurait dû être réglé ici, mais c'est la politique qui a gagné sur la science.
C'est vraiment le Japon qui a exprimé haut et fort ici son opposition à ce que soit protégée toute espèce marine, c'est décourageant.
Pour justifier leur position, le Japon et ses alliés mettent en avant le poids économique et culturel de la pêche dans leur société. Baleines, thons, requins, coraux, à chaque conférence internationale, le même affrontement se reproduit. Les États-Unis et l'Europe d'un côté, de l'autre, un bloc asiatique qui n'entend rien lâcher de sa pression sur les ressources marines.
Voilà, un reportage tourné en 2010 à la conférence de la CITES de Doha au Qatar, au cours de laquelle celle-ci a refusé de protéger trois espèces de requins pêchés pour leurs ailerons et leur viande. Ce qu'on peut dire, Mégane Nathalie, c'est que le classement d'une espèce fait toujours l'objet d'âpres négociations.
Alors effectivement, pas toujours, mais c'est souvent le cas, puisque effectivement l'inscription d'une espèce au sein des annexes de la CITES, parce qu'elle sous-tend des enjeux souvent contradictoires, enjeux de conservation, enjeux financiers, est effectivement l'objet d'un procédé de négociation plus ou moins difficile. Et lors de la dernière réunion en 2022, on a eu plusieurs cas. Donc effectivement, il y a eu le cas de l'hippopotame, des propositions de déclassement ou de classement en annexe 1. On a eu le cas des requins, qui est lui, heureusement, un fort heureux exemple de réussite. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir de fortes tensions.
Est-ce que la CITES a beaucoup évolué depuis 1973, Mégane Nathalie, puisqu'elle a fêté l'an dernier ses 50 ans?
Oui, alors moi, je considère qu'elle a pas mal évolué. En fait, si vous voulez, elle est dotée de plusieurs organes institutionnels. Et celui qui est le plus révélateur de cette volonté d'adaptation de la CITES au fil des ans, c'est la conférence des parties, qui est formée par les États ayant souscrit à la convention. Cette conférence des parties, elle se réunit tous les deux ans, elle est chargée d'assurer la pertinence de la CITES au fil des années et de sa bonne mise en œuvre. Et pour ce faire, en fait, elle observe d'une part l'actualité du commerce d'espèces sauvages et d'autre part les dynamiques et les tendances et les éventuelles difficultés de transposition de la convention. Et donc au fil des ans, l'analyse de ces états de fait, elle a conduit cet organe à élaborer des résolutions, des amendements qui visaient à remédier aux éventuelles lacunes conventionnelles, à interpréter des termes qui étaient sujets à trop d'interprétations et ensuite également à inscrire ou désinscrire des espèces au sein des annexes.
Charlotte Nittard, je rappelle que vous êtes présidente de l'association Robin des Bois.
Oui, et nous on est observateurs à la CITES depuis 1989 et on voit qu'il y a une évolution en particulier pour les espèces marines où quand même il y a un déblocage progressif. Après effectivement, il y a des fois d'âpres négociations, pas seulement à cause du lobby asiatique, j'aurais quand même souligné aussi l'importance du lobby des animaux de compagnie et de l'aquariophilie, notamment en Europe, et puis aussi du marché des reptiles, qui est absolument considérable. Et par exemple, l'Union européenne s'est farouchement opposée à l'inscription au Panama l'année dernière, enfin en novembre 2023, 2022, pardon, des grenouilles de verre qui rentrent beaucoup dans le commerce pour après finir dans des terrariums chez les particuliers. Donc chaque pays a ses particularités, chaque bloc a ses particularités. Dieu merci, il y a quand même quelques propositions qui parfois sont acceptées par consensus. Ça a été le cas notamment de certains oiseaux chanteurs lors de la dernière CITES.
Oui, et puis désormais, elle s'intéresse davantage aux zoonoses, ces maladies infectieuses qui transitent de l'animal à l'homme. C'est une question qui se pose, je crois, notamment avec la viande de brousse, Mégane Nathalie.
Oui, effectivement, on a un gros problème aujourd'hui. Comme je le soulignais tout à l'heure, le trafic d'espèces sauvages soulève de nombreuses implications. Et effectivement, l'importation non contrôlée de spécimens sauvages aujourd'hui sur les territoires, c'est un vecteur d'entrée de maladies infectieuses, humaines et animales, qui peuvent se propager à l'échelle globale. Et aujourd'hui, on estime que 70% des maladies humaines émergentes sont d'origine zoonotique.
Et alors, l'une des failles importantes de la CITES, c'est la chasse en boîte. Rappelez-nous de quoi il s'agit, Mégane Nathalie.
Oui, tout à fait. Alors, la chasse en boîte ou chasse sportive, mais ça reste encore à interpréter, c'est effectivement une chasse où les animaux en question sont mis dans une réserve, ou en tout cas un parc, c'est-à-dire qu'ils ont absolument l'impossibilité de sortir, ils sont même parfois sédatés. Et c'est effectivement, à mon sens, une des failles de la réglementation CITES, parce qu'aujourd'hui, il est possible pour les touristes ayant participé à ces chasses de ramener chez eux, pour leur seul usage, des trophées issus de ces pratiques. Mais malheureusement, il arrive fréquemment que ces trophées, une fois arrivés sur le territoire de résidence des individus concernés, entrent sur le marché noir. Et il y a d'ailleurs eu une enquête sur le sujet propre à une tendance qui avait été notée chez certains individus de mafia vietnamienne en Afrique du Sud qui soutenaient activement un commerce souterrain de cornes de rhinocéros vers le continent asiatique.
Mais alors il y a un argument des chasseurs qui affirment que la chasse légale permet de dégager des bénéfices qui peuvent ensuite être réinvestis dans la conservation des animaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Charlotte Nittard?
Oui, c'est quelque chose qu'on entend depuis les années 90. C'est par exemple tuer des éléphants, ça permet d'avoir de l'argent et donc de pouvoir protéger les éléphants. Bon, pour nous c'est une absurdité totale, d'autant qu'un éléphant mort c'est one shot, c'est le cas de le dire, et ça rapporte à quelques-uns qui sont très peu nombreux, tandis que le tourisme de vision d'un éléphant vivant, ça va s'étaler sur plusieurs décennies, ça va générer des revenus économiques liés au tourisme, les hôtels, etc. Donc c'est une vision financière qui est vraiment portée par une élite qui profite de cet argent immédiat.
Oui, et ce qui divise aussi ceux qui luttent contre le trafic d'espèces menacées, c'est par exemple la revente de ce qui a été saisi. Comment est-ce que votre association se positionne par rapport à cela, Charlotte Nittard?
Ah, nous, on est vraiment pour la destruction des saisies. Et d'ailleurs, on avait porté la destruction des stocks d'ivoire saisis en France qui ont été détruits. Si vous voulez, pour nous, c'est comme de la drogue, de la contrefaçon, ou des médicaments de contrefaçon, ou des vêtements de contrefaçon. C'est saisi, c'est illégal, on retire du marché, point barre. D'autant que on a vu dans plusieurs pays des stocks d'ivoire saisis dans lesquels il y avait du vol après. C'est-à-dire qu'il y a encore de la corruption, il y a encore des vols, ça alimente le marché, donc ça l'alimente, ça le fait tourner, ça fait croire qu'il y en a, ça fait des demandeurs, ça fait des acheteurs, ça fait... Donc on n'en finit pas, il faut le détruire, point barre.
Il y a sûrement un moyen de s'échapper d'ici.
Oh, et oui, bien sûr qu'il y en a un.
France Culture.
Tu crois?
Absolument.
Entendez-vous l'écho?
Toi déguisé en portefeuille, toi en ceinture à boucle, et notre cher Franck...
Non, je ne veux pas entendre.
En sac à main.
Tiphaine de Roquigny.
Oh non.
Mais en lézard cousu main.
Ah, mon Dieu. Mon Dieu !
Nous le disions au début de cette émission, les condamnations pour trafic d'espèces menacées sont assez rares. Ce que l'on observe, Megan Nathalie, c'est que les peines infligées aux trafiquants sont très disparates selon les pays.
Oui, exactement. Et alors ça, pour moi, ce serait par exemple un moyen de levier pour lutter contre ce trafic illégal d'espèces sauvages, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui absolument renforcer les lois et les réglementations en imposant des peines et des amendes qui soient véritablement dissuasives.
Mais pourquoi sont-elles disparates ? Parce que la CITES énonce des règles mais n'engage pas de poursuites ?
En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le texte de la convention CITES, comme je l'ai dit, c'est un texte de commerce et pas une convention liée au crime. Donc, elle se contente de faire référence à la mise en place de mesures appropriées pour appliquer les dispositions et interdire le commerce de spécimens. Mais si vous voulez, elle ne donne pas de référentiel. De toute façon, ce n'est pas son rôle. Et même l'Union européenne, qui, elle, s'est engagée assez activement dans la lutte contre ce trafic illégal, elle n'a pas su profiter du manque de précision des dispositions de la CITES pour soutenir son approche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le règlement et la directive en question ne fournissent pas d'échelle de sanctions ou de peines maximales, minimales. Et ils échouent aujourd'hui à guider les États vers l'élaboration de législations qui sont pertinentes. Et aujourd'hui, cette absence de critères précis au niveau européen, elle a conduit des États tels que la Suède et l'Autriche, par exemple, à prévoir des sanctions qui sont basées sur la situation financière de l'accusé, alors même qu'il faudrait, au contraire, baser des sanctions et des amendes sur la valeur commerciale de l'espèce saisie et ou de la menace pour le statut de sa population à l'état sauvage.
Sur cette disparité des sanctions, Charlotte Nittard, entre les États remparts et les États passoires.
Oui, exactement. État rempart, État passoir, c'est une bonne formule. Par exemple, en Afrique, des grandes disparités en Afrique de l'Ouest entre le Sénégal et le Gabon, par exemple, ça va être entre pour la même chose, le même trafic de peau de félin ou d'ivoire, ça va être un mois avec sursis et quelques centaines, l'équivalent de quelques centaines d'euros d'amende, ou bien de la prison ferme pendant plusieurs années. Il y a des États qui se bougent bien et qui, par exemple, l'Afrique du Sud a des pénalités, a des peines prévues qui sont fortes. Et en plus, en ce qui concerne par exemple les rhinocéros, c'est doté d'un tribunal spécialisé, le tribunal de Skukuza, qui donc connaît bien les ressorts des trafiquants, etc. C'est bien par où la procédure va pouvoir se faire attaquer en termes de vis, etc. Parce que en face, il y a des fois des avocats qui sont brillants pour défendre les braconniers, les trafiquants. Donc le fait d'avoir un tribunal spécialisé leur permet d'être aiguisés et de ne pas se laisser endormir ou avoir, tout simplement. Maintenant, au niveau de l'Europe, effectivement, ça a été dit. Et en plus de ça, il y a la difficulté, la disparité des peines encourues et aussi de l'application. Et on le voit, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau français, où il y a eu un renforcement des sanctions il y a quelques années. Donc, pour un trafic simple, c'est 3 ans et 150 000 euros d'amende. Et si c'est en bande organisée, ça augmente à 7 ans et 750 000 euros d'amende, mais suivant les tribunaux, voire même suivant le juge et sa sensibilité ou l'état de débordement de son bureau par divers dossiers, va classer sans suite ou au contraire appliquer avec beaucoup de fermeté les peines.
Oui, et puis est-ce que dans le trafic des espèces menacées, Megan Nathalie, on retrouve le même problème que pour le trafic de drogue, par exemple, c'est-à-dire que les condamnations sont prononcées contre les petits trafiquants et pas contre les gros bonnets ?
Et oui, malheureusement, c'est exactement ça. Ce sont souvent les personnes qui sont un peu à la racine des opérations de braconnage et qui ne sont pas souvent les têtes pensantes des mafias et des groupes organisés qui subissent les plus lourdes charges judiciaires. Et malheureusement, bon, c'est effectivement, il faut punir dans ces cas-là, mais ça ne suffit pas à démanteler les réseaux qui sont véritablement problématiques. Et je voulais juste rebondir sur la sensibilisation des magistrats qui, effectivement, me semble être une question d'une importance capitale. Parce qu'aujourd'hui, il faut effectivement former les magistrats pour qu'ils prononcent des peines qui sont véritablement à la hauteur des enjeux. Et par exemple, ils pourraient fonder leur méthode sur l'appréciation de la valeur du marché des espèces saisies et calculer, comme c'est par exemple le cas en Italie, les amendes en la multipliant par autant de fois la valeur du marché de ces espèces qu'ils le souhaitent pour établir une sanction qui soit proportionnelle à la gravité de la violation et du trafic en général.
Donc parmi les mesures que vous proposez, j'ai bien entendu l'idée d'un tribunal dédié, spécialisé dans le droit de l'environnement, des peines peut-être plus dissuasives, des magistrats mieux formés. Mais alors comment faire à l'échelle locale pour compenser le manque à gagner que représente pour certaines populations le trafic d'espèces menacées ?
À l'échelle locale.
C'est-à-dire que si on arrive en effet à lutter contre le trafic d'espèces menacées dans certains pays, dans certaines régions, dans lesquelles cela représente un revenu conséquent, est-ce que il y a des mesures qu'on peut envisager pour compenser le manque à gagner que représenterait la lutte contre ce trafic?
Oui, bien sûr. Alors, ces mesures, elles peuvent aller dans la promotion de moyens alternatifs. Tout à l'heure, il a été soulevé la question du tourisme de vision, qui effectivement, en réalité, est une activité qui est véritablement fructueuse. Aujourd'hui, la chasse en boîte qu'on évoquait tout à l'heure, elle pâlit face à la mise en contraste avec l'activité de tourisme d'observation, puisqu'elle représente moins de 2% de l'activité de tourisme qui a lieu, qui a cours dans la majeure partie des États africains, en tout cas. Donc finalement, on peut compenser ce manque à gagner en promouvant des activités qui soient véritablement respectueuses dans l'environnement, respectueuses des communautés locales et respectueuses des commerçants honnêtes qui, eux, respectent les considérations juridiques et durables qui leur sont soumises.
Charlotte Nittard.
Oui, je voudrais quand même redire que il faut lutter contre la pauvreté, il faut lutter contre la corruption. Ça sera les meilleurs outils qui soient pour améliorer le statut des espèces des espèces menacées, ça c'est évident. Excusez-moi, j'ai perdu le fil.
Non, sur le manque à gagner, sur les populations, il y a peut-être, c'est effectivement cette idée que vous défendiez, qui est que cette pauvreté est existante, mais peut-être pas aussi importante que certains voudraient le faire croire.
Oui, c'est ça. Et en plus de ça, que ça pénalise les opérateurs légaux, parce que vous pouvez avoir une espèce dont le commerce international est interdit, mais qui par contre, au niveau local, son exploitation est autorisée. Ou vous pouvez avoir des opérateurs illégaux qui, à cause de la circulation des armes et de la corruption et autres facteurs d'instabilité, pénalisent ceux qui, dans la même région, opèrent légalement. Ça s'est vu, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, où des pêcheurs de locaux étaient menacés et ne pouvaient plus travailler à cause du blue boat vietnamien qui venait menaçant pour pêcher les concombres de mer, qui sont aussi nommés holothuries, qui sont des animaux fantastiques. Donc ça déstabilise les opérateurs légaux, il faut le préciser quand même.
Quelles sont les autres pistes que l'on peut envisager, Megan Nathalie, pour mieux lutter contre ces trafics d'espèces menacées?
Alors, outre le renforcement des capacités d'application de la loi, la sensibilisation des magistrats, une révision des législations dont on a parlé tout à l'heure pour des peines qui soient plus dissuasives, on peut également penser à une meilleure prise en compte des communautés locales aujourd'hui, c'est-à-dire en leur dévoluant des droits de propriété, par exemple, comme ça a été le cas en Namibie, sur la biodiversité sauvage, ou en les intégrant dans des schémas économiques qui leur permettent effectivement de voir qu'ils auraient plus, par exemple, de profits à gagner, plus de bénéfices à tirer, du respect de la conservation de la biodiversité sauvage qui les entoure, plutôt que de s'entraîner dans des opérations de braconnage.
Il y a peut-être aussi un enjeu de traçabilité. Vous disiez à Léopold Thiavon qui a préparé cette émission que des grenouilles d'Indonésie pouvaient se retrouver dans les rayons d'une grande marque française de surgelés, Charlotte Nittard.
Oui,
de traçabilité suffisante.
À faute de traçabilité, et quand vous interrogez les opérateurs donc qui vendent majoritairement, le principal consommateur de cuisses de grenouilles, c'est à peu près 3000 tonnes par an qui sont importées en France. Ce qui fait, parce qu'il faut bien se rendre compte, entre 60 millions et 150 millions de grenouilles qui viennent principalement d'Indonésie et du Vietnam. Bon, vous avez une législation européenne qui impose de marquer le nom de l'espèce et le pays de provenance sur les étiquetages. Or, on voit que c'est pas du tout respecté. Et quand on approche les grands groupes de surgelés ou bien les grands opérateurs, les grands supermarchés, et qu'on a des réunions avec eux, alors que ce soit Carrefour, Système U ou autre, quand on attire leur attention là-dessus, ils savaient pas, sur place, on leur a dit que ça allait, donc ils sont surpris, oui, ils vont prendre les mesures qui s'imposent, mais c'est vrai que les distributeurs ont aussi un rôle qui est capital. Les distributeurs et aussi, dans les leviers d'action, il y a les transporteurs et les armateurs et les consignataires et autres. C'est-à-dire qu'on le voit, par exemple, pour le trafic de drogue, vous pouvez avoir un porte-conteneur qui est saisi ou qui est relâché après quelques jours, moyennant une importante caution, ça ne se voit pas pour le trafic de tonnes et de tonnes d'ivoire depuis l'Afrique vers l'Asie. Ça serait un bon moyen que tous ces opérateurs mettent en place des audits de leurs clients, soient beaucoup plus formés, avisés et vigilants.
Mégane, Nathalie, peut-être sur cet enjeu de la traçabilité ?
Non, effectivement, rien de particulier à rajouter. C'est un enjeu qui est primordial. Mais effectivement, là, sur le sujet, tout a été dit. Je partage tout à fait l'avis qui a été formulé.
Avec l'idée aussi que vous évoquiez tout à l'heure d'un besoin de moyens supplémentaires, hein, aussi du côté des douanes en particulier, puisque il faut un travail très efficace, mais il manque cruellement de moyens, Charlotte Nita.
Absolument. C'est-à-dire que c'est pas du tout valorisé. Si vous êtes douanier et que vous arrêtez un trafiquant de drogue, c'est valorisé au niveau de la hiérarchie, etc. Tandis que le trafic d'espèces menacées, non. Généralement, c'est sur une base volontaire qu'ils se mettent dans des brigades dédiées. Ils sont absolument pas assez nombreux quand on compare, par exemple, aux Anglais qui, à Heathrow, ont une super brigade de gens formés en permanence, etc. En France, alors qu'en plus de ça, on accueille les lignes aériennes, par exemple, d'Afrique de l'Ouest avec toute la viande de brousse. Ils sont absolument pas assez nombreux parce que, en plus de ça, c'est un métier qui nécessite une grande technicité. Parce que une espèce animale ou végétale, c'est la même chose, qui est morte, qui est donc desséchée, voire qui est coupée en lamelles. C'est dur de l'identifier. Parfois, vous avez des papillons qui sont protégés, mais d'autres non. Donc, il faut demander au Muséum d'Histoire Naturelle de faire de l'identification, etc. Pareil pour certains hippocampes ou toute la viande. Donc, ça nécessite une formation permanente et renouvelée aussi, parce que c'est ça qui est terrible, c'est que les trafiquants ont un art exceptionnel de pour s'adapter et donc ça nécessite qu'en face on soit aussi flexible et réactif.
Et oui, il y a encore quelques jours à Paris, Gare de l'Est, un trafiquant a été interpellé avec plusieurs reptiles dans ses chaussettes. Merci beaucoup Charlotte Nitar et Mégane Nathalie de nous avoir renseigné sur cette économie souterraine. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, à l'ouvrage dont vous êtes co-autrice, Charlotte Nitar, vous qui êtes présidente de l'association Robin des Bois. C'est un atlas du business des espèces menacées qui est paru chez Artaud. Et Mégane Nathalie, il y a l'ouvrage tiré de votre thèse sur le droit international face au trafic de biodiversité sauvage qui a été publié chez L'Harmattan. Un grand merci à toutes les deux et merci également à Youssef Boubaker de France Bleu Azur qui a assuré ce duplex.
c'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Comme chaque jour, on se quitte avec une découverte musicale. Aujourd'hui, c'est Supernova, la nouvelle chanson du girls band britannique Bananarama. Demain, animaux domestiques, un marché de niche. Et oui, évidemment, nous reviendrons sur l'économie des animaux de compagnie avec Katia Renard et Laurent Bègue. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.